L'Afrique en jeu, Silver-Henri Cissé.
Britain, Australia.
Nous avons mis le Ghana sur la carte du Commonwealth, sur la carte du monde. Parce qu'à notre époque, nous avions établi le record du Commonwealth en 39 secondes, 8 dixièmes. Nous étions à 1 millième du record du monde, juste 1 millième. Nous étions très proches du record du monde, c'était assez énorme.
Les sprinteurs ghanéens tutoyaient les étoiles dans les années 60 et Ebenezer Addy, que vous venez d'entendre, se souvient de cette période bénie quand il faisait jeu égal avec les coureurs américains et remportait la médaille d'or aux Jeux du Commonwealth de 1966 avec son équipe du 4x100 mètres. Ebenezer Addy, source d'inspiration pour toute une génération, nous raconte une période, une époque où le sport ghanéen se faisait remarquer et qui nous interroge. Quand nous explorons les périodes où le sport mondial se distingue par le spectacle sportif, cela correspond au moment où le monde connaît une forme de détente dans les relations entre grandes puissances. Alors, qu'attendre de Paris 2024 pour les nations africaines dans cette période de tension géopolitique? Eh bien, nous allons regarder aujourd'hui, sur le temps long, sur une période de 10 à 20 ans, le sort qu'a connu le Ghana, passant de la lumière à l'ombre, pour nous projeter et imaginer et voir ce qui attend les nations africaines. L'Afrique en jeu, c'est aussi le portrait d'une femme inspirante, Ruth Babi, la première médaillée ivoirienne qui, à 30 ans, participera à ses 4e Jeux Olympiques. Une photo, une histoire, avec l'avènement de la Dream Team à Barcelone 92 et la consécration d'un demi-dieu, la consécration de Michael Jordan, qui fera rentrer les Jeux Olympiques dans une autre dimension. L'Afrique en jeu, J-62, c'est maintenant. Claire Nicolas, merci d'être avec nous dans l'Afrique en jeu.
Merci de votre invitation.
Vous êtes historienne et chercheuse du Fonds national suisse. Vos travaux portent sur le sport au Ghana et en Côte d'Ivoire. Le Ghana qui connaîtra une période de sport faste, hein, comme je le disais auparavant, dans les années 60. Et son exemple va servir notre démonstration aujourd'hui dans l'Afrique en jeu. Effectivement, il faut 3 facteurs pour qu'une nation performe sur le plan sportif. Alors avec vous, nous allons les passer en revue. En tout premier lieu, Claire, une nation doit posséder des athlètes de haut niveau, une génération dorée, et le Ghana les possédait avec Christina Boateng et Michael Haye. Qui étaient-ils ?
Alors, Christina Boateng et Michael Haye, c'est des athlètes du début des années 60 qui ont leur pic, notamment dans le cadre des Jeux des Commonwealth en 62, puis aux Jeux Olympiques à Tokyo en 1964. Et l'un comme l'autre, c'est des athlètes qui sont vraiment admirés dans tout le Ghana, dont la presse suit leurs exploits. Michael Haye, notamment, il va rapporter la première médaille d'or que le pays aura jamais obtenue en saut en longueur à Perth en 1962. Et les deux portent des espoirs assez fous pour des chances de médailles pour un pays qui vient d'être indépendant, qui est aussi un des fers de lance de ce que peut signifier être un État indépendant en Afrique à ce moment-là, à l'aube des années 60.
Deuxièmement, Claire, les athlètes doivent vivre dans un environnement serein, une atmosphère d'optimisme et peut-être une société en paix avec elle-même.
Ce qui est certain, c'est que oui, au début des années 60, au Ghana, on a vraiment un moment politique d'ouverture et de cette idée qu'il faut imaginer le futur de l'Afrique, un futur qui s'est débarrassé du colonialisme. Le Ghana est indépendant depuis 57, c'est un des premiers pays à acquérir son indépendance. Il y a une république qui est instituée en 60 et donc du coup, on est vraiment avec, notamment sous la houlette de Kwame Nkrumah, qui est un président très actif dans l'unité panafricaine, dans l'idée d'un socialisme africain. On est vraiment dans un moment finalement d'idée où il faut construire un État moderne qui va avoir sa place dans le monde. Et je ne sais pas si c'est un État qui est particulièrement en paix avec soi-même, je n'irai peut-être pas jusque-là parce qu'il y a quand même beaucoup de conflits et puis c'est un gouvernement qui peut être pas mal contesté par ailleurs. Il y a des grèves, il y a des tentatives d'assassinat du président, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a un investissement sans précédent dans le champ sportif par le gouvernement.
Pour réussir, Claire, troisièmement, il faut se frotter au meilleur et souvent ce fut le cas avec le tennis de table qui avait installé une forme de partenariat au Ghana avec la Chine.
Oui, bah du coup, j'ai dit tout à l'heure que le Ghana, c'est un pays qui est à ce moment-là socialiste et ça signifie que les alliances, notamment les accords de coopération culturelle et sportive, ils vont plus tourner vers l'ancienne puissance coloniale britannique, mais notamment vers des pays socialistes. En premier lieu, l'URSS et la Chine. ce qui est moins connu parce qu'on pense toujours à la Chine comme arrivant en Afrique dans les années 2000, mais en réalité, il y a des partenariats qui peuvent être très anciens. Et le championnat du monde de tennis de table qui a lieu en 61, le Ghana va participer à titre d'observateur, va envoyer une équipe avec des joueuses et des joueurs. Et ensuite, là, il y aura un partenariat qui va être institué entre le Ghana et la Chine pour faire venir des entraîneurs chinois et des joueurs qui vont faire une tournée dans plusieurs pays africains et qui vont participer à la formation des pongistes ghanéens, qui vont d'ailleurs faire partie, à ce moment-là, dans les années 60, début des années 70. Le Ghana est vraiment un des meilleurs pays sur le plan du tennis de table en Afrique, va gagner les championnats d'Afrique, va gagner des championnats régionaux et va vraiment se positionner dans ce sport qui est assez méconnu.
Allez, je rajoute un quatrième critère, le football, qui ne doit pas être hégémonique et étouffer les autres sports. Et ce fut le cas au Ghana, qui avait un véritable projet politique autour de l'ensemble de ces sports.
Oui, quand on pense au sport en Afrique, on pense toujours facilement au football masculin parce que c'est ce qui nous vient à l'esprit du fait des grandes stars, de la popularité du sport. Mais ce qui est spécifique avec le Ghana, bien que ce soit un moment, ce moment des années 60 sous Nkrumah où le football est très important, l'administration ghanéenne va beaucoup investir aussi dans d'autres sports. Donc le tennis de table, l'athlétisme qu'on a mentionné tout à l'heure, la boxe aussi. Il y a des boxeurs ghanéens qui remportent des grands titres à ce moment-là aussi. Et donc on a vraiment un investissement multisportif et aussi un investissement dans le sport féminin. Le Ghana est le premier pays d'Afrique à envoyer une sportive aux Jeux Olympiques en 1960.
Vous avez échangé avec les athlètes de cette époque-là pour vos différents travaux et en discutant avec eux, vous avez décelé qu'il y avait une forme de nostalgie de cette période dorée.
Oui, alors c'était particulièrement frappant quand j'ai rencontré Makahe justement, quand il m'a parlé du début des années 60, quand il a gagné ses premiers titres, de la manière dont le pays pouvait être derrière lui, l'accueil qu'il pouvait avoir aussi quand il revenait de tournée sportive à l'étranger, que ce soit d'être accueilli par le gouvernement à l'aéroport, d'avoir aussi des bonnes conditions d'entraînement. Et ce qui se passe au Ghana, c'est que par la suite, il va y avoir des coups d'État, notamment un en 66 qui renverse Kwame Nkrumah, et puis un autre qui est assez important en 72, qui va avec un gouvernement militaire qui va être mis en place. Et à partir de ce moment-là, il y a une crise économique assez dure. Et les sportifs que j'ai rencontrés, qui ont plutôt évolué dans les années 70, ont clairement pas du tout connu les mêmes conditions de pratique, les mêmes conditions de vie que les sportifs des années 60. Que ce soit en termes de salaire, de conditions d'entraînement, de moyens qui sont alloués à leur pratique.
Et chez ces sportifs que vous avez rencontrés, il y avait un impératif qu'ils s'appliquaient à eux-mêmes, le sens du devoir, la fidélité au drapeau et une forme de mise à disposition au service de l'État.
Alors je pense que c'était toujours un peu ambigu. Je pense que l'État voulait tout à fait, en effet, que les sportifs représentent le nouveau gouvernement, que représentent ses intérêts, mais comme beaucoup de gouvernements veulent que quand un sportif fait un exploit à l'international, ça va rejaillir pour donner une certaine popularité au gouvernement actuel. Je pense que quelqu'un comme Ahé, c'est un militaire par ailleurs, il avait tout à fait le sens du devoir chevillé au corps. Mais il y en avait d'autres qui étaient quand même, disons, un peu plus rétifs à cette idée-là. On le voit d'ailleurs, qu'il y a quelque chose que j'ai trouvé très intéressant en tant qu'historienne, c'est que la presse du début des années 60 parle beaucoup des sportifs et notamment parfois de leur mauvais comportement. Si jamais ils ne se sont pas bien entraînés, qu'ils ont manqué de respect à leurs entraîneurs ou aux autorités, qu'ils ont pu mal se comporter dans une compétition, ça va être publié dans la presse pour leur faire honte, pour pouvoir aussi les punir de cette manière-là. Et donc, ça nous dit aussi que certains d'entre eux étaient un peu plus rebelles aussi.
C'est très bien de prendre de la hauteur par rapport aux événements. Ça nous permet de comprendre les creux et les manques de performance de certaines nations. Nous allons poursuivre d'ici quelques instants, Claire Nicolas, avec vous, et voir le moment de bascule, la période où le Ghana va perdre cette période dorée, ses jours heureux. Eh bien, les jours heureux, c'est aussi une séquence que connaît la Côte d'Ivoire en ce moment, avec des sportifs qui brillent, et parmi eux, notre femme inspirante de ce jour.
Une femme, un destin.
Merci Ruth Babi d'être avec nous dans l'Afrique en jeu. Vous êtes médaillée olympique en bronze à Rio 2016 et Tokyo 2020 en taekwondo dans la catégorie des moins de 67 kilos. Vous êtes la première ivoirienne médaillée olympique de l'histoire. Nous avons parlé il y a quelques instants de cela, du sens du devoir des athlètes ghanéens avec Claire Nicolas. Alors comment se manifeste ce sens du devoir pour vous par rapport à la Côte d'Ivoire ?
Depuis mon enfance, c'est vrai que je rêvais de faire une carrière au football, mais de là, du football passé au taekwondo, je n'avais vraiment pas imaginé d'avoir une telle responsabilité de représenter mon pays à l'international. Et aujourd'hui, je porte mon pays, je porte toute l'Afrique entière lorsque je combats. Et je vous assure que ça me fait vraiment plaisir et c'est un honneur pour moi de représenter mon pays, l'Afrique.
Donc c'est une double implication pour vous, Côte d'Ivoire et le continent africain dans sa totalité.
Oui, effectivement, je représente le continent. Et à chaque fois, quand je suis sur l'aide du combat, je me donne à fond pour faire plaisir à toutes les personnes qui me soutiennent. Voilà.
C'est pour ça qu'on voulait vous présenter aujourd'hui comme une femme inspirante, parce que vous le démontrez. Et au passage, nous remercions votre mère de vous avoir dirigé plutôt vers le taekwondo et de vous avoir empêché de faire du football, parce que là, la Côte d'Ivoire peut en bénéficier. Il y a une prise de conscience chez vous, rue de Babil, l'année dernière, et elle concerne votre alimentation. Que s'est-il passé ?
L'année dernière, en début d'année, j'avais une blessure au genou et je ne comprenais pas pourquoi une telle blessure est arrivée alors que je m'entraîne très bien. Donc, je faisais une réunion avec des amis et il y a une qui a parlé d'alimentation et je me suis dit, mais pourquoi pas gérer ce côté-là également, parce que c'est vrai que quand on parle d'alimentation d'un sportif, ce n'est pas forcément pour le poids, c'est aussi pour l'hygiène de vie, pour le corps, pour également prévenir les blessures. Pour optimiser également la performance. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé avec une nutritionniste ici à Palma. Et depuis lors, je me sens en forme et ça me fait vraiment du bien dans mon corps.
À Palma de Mallorca, où vous vous entraînez en préparation de Paris 2024, vous êtes en train de nous dire que vous avez changé votre régime alimentaire, donc il n'y a plus d'attiéké, et vous avez ressenti des effets. Mais ces effets ressentis, c'est à court, à moyen ou à long terme?
À partir de 2 mois, j'ai commencé à sentir un changement au niveau physique. Et là, ça fait plus d'un an maintenant que je le fais et je me sens vraiment bien. Je sens vraiment la différence il y a un an et aujourd'hui.
Donc, ce que vous nous dites, c'est que les sportifs doivent arrêter les fast-foods et les hamburgers et vraiment se concentrer sur la diététique et sur ce qu'ils mangent. Et vous souhaitez donc à l'avenir lancer des formations pour adapter la diététique de la cuisine africaine justement au régime sportif.
Oui, effectivement, c'est un de mes objectifs et je veux vraiment me former dans la nutrition pour pouvoir apprendre plus et pouvoir mieux prodiguer des bons régimes, des bons conseils aux athlètes africains parce que effectivement, je pense qu'on n'a pas trop cette culture-là. Vu que moi aussi, je viens de la Côte d'Ivoire, je sais comment j'ai progressé et je connais aussi les difficultés que les athlètes ivoiriens africains rencontrent. Donc, je pense que je peux également apporter un plus côté alimentation adaptée aux Africains.
C'est pas trop dur de se passer de la tuque et de la loco?
Bon, pas de se passer complètement parce que c'est ce qu'on aime. Mais je pense que, par exemple, moi... Comme j'aime la tchéké, souvent je fais le poisson, je fais des légumes et je mets la tchéké à côté. C'était mieux de prendre des pâtes ou du riz. On aime tous le foufou, la tchéké, le poisson, la sauce graine, mais je pense qu'on peut quand même adapter. Voilà.
Je regarde votre CV, Ruth. Et vous allez participer à vos 4e Jeux à Paris. Est-ce que vous envisagez d'aller à Los Angeles en 2028?
Déjà, je pense
que... Vous avez 30 ans, hein?
Oui, j'ai 30 ans. Déjà, je pense que je me sens bien. Et si je suis en bonne santé, je pense que oui, je peux continuer jusqu'à Los Angeles.
Vous n'êtes ni boursière olympique, vous n'êtes pas aidée par le ministère des Sports de Côte d'Ivoire. Comment faites-vous? Vous qui vous entraînez à Palma de Mallorca en Espagne, dans le centre très réputé en taekwondo de Ramon Sanchez, on sait que les salaires en taekwondo ne sont pas mirobolants. Alors comment faites-vous pour vous en sortir?
Par la grâce de Dieu, j'ai... le soutien du couple présidentiel, le président Alassane Ouattara et la première dame Dominique Ouattara, qui me soutiennent depuis 2017, après nos médailles olympiques, et ce qui me permet de m'entraîner dans de bonnes conditions ici à Palma. Et je leur dis merci, et c'est grâce à eux que voilà, je continue à faire ces résultats-là. Et ça se passe très bien.
Vous êtes dans la préparation de Paris 2024. Ce sont les derniers instants. Nous sommes à moins de 2 mois du début des Jeux. Normalement, les athlètes sont dans leur bulle. C'est votre cas, vous aussi? Vous êtes dans votre bulle là en ce moment?
Oui. Bon, moi, je suis dans ma bulle depuis janvier 2024. J'ai su que j'étais qualifié officiellement. Donc voilà, depuis janvier, moi, je suis dans ma bulle. Je suis concentré sur les Jeux. Ça demande tellement de concentration, surtout au taekwondo, vu que pour nous, c'est en une journée. Moi, je combats le 9 août. Si tu rates, tu n'as pas une autre journée pour te rattraper. Donc, depuis longtemps, je suis prête et je suis dans ma bulle pour les Jeux.
Merci d'être sortie de votre bulle. C'est un super cadeau que vous nous faites pour l'Afrique en jeu.
Merci beaucoup.
Vous écoutez l'Afrique en jeu sur RFI avec Silver-Henri Cissé.
Claire Nicolas, vous êtes historienne et chercheuse du Fonds National Suisse. Vos travaux portent sur le sport au Ghana et en Côte d'Ivoire. Nous avons détaillé dans la première partie de l'Afrique en jeu les facteurs qui ont permis au Ghana d'amasser des performances sportives dans les années 60 Et il y aura un moment de bascule à partir de 64 et la mauvaise performance de Christina Boiteng, la star du sprint ghanéen. Cela se passe à Tokyo. Que s'est-il passé avec Christine Boiteng ?
Il y avait beaucoup d'espoir qui était mis sur les Jeux de Tokyo parce que on était en 64, ça faisait un certain moment que le Ghana avait une politique sportive intense. La dernière édition en 60, c'était une participation encore très récente, moins installée peut-être. Et donc quand le contingent va aller aux Jeux de Tokyo, les performances ne vont pas être catastrophiques, sauf pour Christina Boiteng, justement, pour qui ça va être très très compliqué. Elle va faire une course qui va être bien en dessous de ses moyennes habituelles, notamment dans d'autres compétitions internationales auxquelles elle avait participé, que ce soit aux Jeux du Commonwealth, à domicile ou ailleurs. Et quelque chose qui me semble tout à fait intéressant, c'est que le fait qu'elle n'ait pas eu une bonne performance et que finalement, alors que les résumés croyaient qu'elle pourrait peut-être obtenir une médaille ou quelque chose comme ça, son cas va être discuté jusqu'au Parlement ghanéen. Et donc, on va avoir des députés qui, on le voit dans les comptes rendus de discussion des députés, qui vont discuter assez longuement pendant plusieurs heures des Jeux Olympiques de 64, avec notamment cette déception autour de cette participation, avec le fait que peut-être elle n'aurait pas dû être présentée parce qu'elle était fatiguée, et donc avec des députés qui vont chercher à comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Alors, le Ghana va encore avoir d'autres succès sportifs par la suite. Justement, j'ai parlé du tennis de table où ils vont continuer d'être champions d'Afrique. Christina Boiteng elle-même, elle va continuer de participer à des compétitions sportives. Il y aura d'autres athlètes qui vont ensuite avoir des succès, notamment en 68 à Mexico. Mais c'est vrai que ce qui me semble intéressant, c'est que le politique va véritablement s'emparer de ces jeux et va véritablement essayer de chercher à finalement utiliser la participation des athlètes ghanéens pour pouvoir représenter le succès du pays. Donc, si les athlètes ne sont pas à la hauteur, c'est un gros problème pour le gouvernement. Et donc, il faut en discuter.
Mais vous oubliez un succès qui est très important aussi. C'est le succès de l'équipe nationale de football en 1963 qui remporte la CAN. Alors, est-ce que justement, les politiques n'ont pas mis trop de pression sur ces athlètes avec cette victoire des Black Stars en finale de la CAN en 1963 ? Les attentes autour de Tokyo étaient peut-être trop ambitieuses, non ?
Oui, c'est possible. Je pense que c'est en effet difficile d'espérer d'un athlète qui brille aux Jeux Olympiques, même s'il a pu avoir des très bons résultats à un niveau continental. Et puis, en effet, le succès de la CAN, c'est sans précédent. Et donc, du coup, ça a un peu donné des ailes aussi, peut-être.
Le sport ghanéen qui a vécu confortablement au début des années 60. Et il y aura un moment de bascule, notamment dans la deuxième moitié des années 60 et plus particulièrement dans les années 70. Le sport sera en crise. De quelle manière sera-t-il en crise ?
En fait, je pense que de manière générale, il y a beaucoup de crises au Ghana à partir de, notamment dans les années 70. Il y a une crise économique qui est très forte. Et donc, les résultats sportifs peuvent être moins bons, mais c'est que globalement, il y a beaucoup de problèmes dans le pays. Il y a un gouvernement militaire qui est autoritaire. Il y a des grandes difficultés pour pouvoir accéder à un certain nombre de biens d'exportation. Il y a une corruption aussi qui devient relativement endémique. Et donc, finalement, les années 70 marquent aussi une rupture dans ce sens-là, parce qu'on n'est plus dans ce moment de la première moitié des années 60 où on était plein d'espoir, où on sortait des indépendances. Et donc là, il y a d'autres contraintes qui arrivent sur le pays. Et le sport fait partie de la société et ne peut pas évoluer tout seul et donc souffre de cette crise aussi.
Vous l'avez dit, nous sommes en pleine guerre froide. Est-ce que l'influence de l'homo soviéticus, la création de l'homme idéal dans la doxa soviétique, ne va pas elle favoriser justement cette pression dont nous parlons sur les athlètes ghanéens ?
Alors, je pense que clairement, le modèle organisationnel soviétique des sports a beaucoup influencé la mise en place de la Central Organization of Sport qui a été mise en place en 60 et qui a existé jusqu'en 66, jusqu'au coup d'État qui renverse Nkrumah. Et c'est assez explicite, en fait, dans les sources. Et notamment, quelque chose qui est assez important pour Ohene Jan, qui est le directeur des sports à ce moment-là, c'est de faire en sorte que les athlètes soient engagés dans des institutions gouvernementales. Donc, ils peuvent travailler dans le cadre de l'organisation des sports, ils peuvent être employés dans d'autres structures. Mais comme ça, on s'assure aussi du fait qu'ils puissent avoir un bon revenu et qu'ils puissent avoir du temps pour s'entraîner, puisqu'ils travaillent pour le gouvernement, donc leur temps d'entraînement en tant qu'athlète de l'équipe nationale fait partie aussi de leur service. Et donc, il y a ce processus qui est clairement inspiré des succès soviétiques. Parce qu'à ce moment-là, l'URSS est clairement une grande puissance sportive.
Merci Claire Nicolas, merci. C'était très intéressant de vous écouter, notamment pour nous projeter sur Paris 2024, dans une période où nous sommes en pleine recomposition géopolitique autour des pôles occidentaux et russes, bien sûr, mais sans oublier la Chine. Un grand merci Claire Nicolas, nous allons rester avec vous en Suisse avec la musique du projet suisse Konkolo Orchestra et la voix sud-africaine de Ngoma. C'est chaud et c'est bon, Konkolo Orchestra et la voix sud-africaine de Ngoma. Chaque semaine dans l'Afrique en jeu, nous vous racontons un épisode marquant inscrit dans l'histoire des jeux. Aujourd'hui, la Dream Team 92 à Barcelone.
Avant les hymnes, nos adversaires se jetaient sur nous pour nous demander des autographes. Et ça se répétait juste avant le coup d'envoi.
Une fois, quand le ballon est sorti du terrain, un adversaire me tire le maillot et me demande « On peut se prendre en photo ? Tu me donnes tes chaussures après le match ? Tu me signes un autographe ?» Et entre nous, on se disait « Ils ont déjà perdu le match. »
Vous ne vous trompez pas. Ce sont bel et bien des sportifs qui parlent de leurs adversaires d'un jour aux Jeux Olympiques de Barcelone en 1992. John Stockton et Karl Malone de l'équipe de basket américaine se rappellent dans un documentaire du magazine L'Équipe ces instants surréels où leurs adversaires n'en reviennent pas d'affronter les stars mondiales de l'équipe américaine olympique. L'équipe de basket américaine propose du jamais vu. Chaque joueur a l'envergure d'une rockstar. Larry Bird, Karl Malone, Patrick Ewing, John Stockton, Scottie Pippen, Clyde Drexler, David Robinson, Chris Mullin, Charles Barkley et bien sûr Michael Jordan. C'est comme si l'équipe de France de football était composée de 11 joueurs de l'aura et l'envergure de Kylian Mbappé. La Dream Team déclenchera une hystérie collective dès que les joueurs apparaissent comme celle déclenchée par les Beatles à l'époque ou Taylor Swift aujourd'hui. Un engouement inégalé pour une équipe de rockstars et son demi-dieu Michael Jordan. Vous pouvez voir sur l'application Pure Radio de RFI une photo, la photo du joueur des Chicago Bulls en action dans une rencontre contre l'Argentine, dans sa position préférée, le corps déplié comme un deltaplane et qui s'apprête à affronter le cercle et surtout à faire rugir de plaisir le public. Fabrice Jouhaud, vous êtes aujourd'hui directeur général de la Ligue nationale de basket française. Vous avez été grand reporter, directeur de la rédaction du journal L'Équipe. Vous avez dirigé la télévision L'Équipe. Vous avez été directeur de la communication et des affaires publiques de la FIFA. Cette photo de Michael Jordan, c'est celle d'un sportif hors du commun. Et en creux, c'est également la photo qui nous parle d'un homme qui a fait basculer les Jeux Olympiques dans une autre dimension.
Oui, bonjour. Merci de m'accueillir. Oui, Michael Jordan fait basculer les Jeux dans une autre dimension parce que jusque-là, en fait, même si c'est une grande star du basket, c'est seulement les amateurs de basket qui le connaissent. Et puis, vu le décalage horaire et à l'époque, les moyens de diffusion, pour voir les matchs de Michael Jordan, il faut avoir une chaîne qui les diffuse sur son fuseau horaire et il faut se lever la nuit, en général. En tout cas, si on n'est pas aux États-Unis. Donc là, les gens découvrent vraiment la réalité de Michael Jordan.
Et là aussi, les Jeux Olympiques, l'organisation des Jeux Olympiques va s'appuyer aussi sur toute la symbolique, l'image et la puissance marketing de la NBA.
Oui, c'est aussi un tournant dans l'olympisme parce que l'équipe américaine, qui est composée de professionnels, c'est, on va dire, la première fois que le CIO tourne le dos à l'amateurisme. Alors, on pourrait débattre des heures de ce qu'était l'amateurisme dans le sport, mais en fait, c'est un virage que prend le CIO et en fait, c'est un peu la fin d'une hypocrisie. Il faut les meilleurs athlètes dans tous les sports, en tout cas au maximum, aux Jeux Olympiques. Et donc, effectivement, c'est une folie marketing. Je ne sais pas si elle était maîtrisée par le CIO. En tout cas, elle était bien par la NBA, le championnat américain, la Ligue américaine. Et ça a changé le visage des Jeux et sans doute le visage du basket dans le monde.
Est-ce que les deux institutions ne vont pas se nourrir l'une l'autre ? Est-ce que aussi la marque NBA ne va pas être découverte à travers le monde grâce à 1992 et aux Olympiques de Barcelone ?
Vous avez complètement raison. C'est aussi le génie du commissionneur de l'époque, David Stern. Parce qu'il faut rappeler qu'à l'époque, les équipes américaines, c'était des universitaires. Et avec le temps, ils n'étaient plus dominants dans le basket. Et ça devenait aussi un problème pour la marque NBA de se dire que dans une compétition internationale, les Américains pouvaient perdre. Et donc la Dream Team, c'est aussi l'affirmation que les Américains ne peuvent pas et ne doivent pas perdre. Et donc ça a nourri la légende olympique, mais ça a aussi grandement nourri la légende de la NBA.
Les Jeux Olympiques de 92 marquent un changement d'air. Alors, ne faut-il pas voir dans ces Jeux qui sont réussis, hein, vraiment réussis, l'étincelle des catastrophes économiques d'Athènes 2004 et Rio 2016 ? Parce qu'il faut rivaliser avec Londres en 2012 et avec Barcelone en 92.
Oui, après, je pense qu'on peut aussi ramener ça à chaque pays et à la folie des grandeurs de chaque pays. Parce que ce que Barcelone a réussi, c'est aussi de refaire entièrement cette ville. C'est-à-dire que Barcelone n'était pas la ville qu'on connaît aujourd'hui, une attraction touristique et estudiantine. C'était une ville un peu poussiéreuse qui payait aussi des années de franquisme, on va dire, pour être rapide. Et Barcelone a réussi aussi à se refaire une beauté architecturale en termes d'urbanisme. Après, effectivement, Athènes n'a sans doute pas réussi ça de manière spectaculaire. Rio, c'est sans doute d'autres problématiques. On peut parler de corruption, de mauvaise gestion. Mais après, c'est sûr que Barcelone, c'est aussi le début de la course à l'armement des villes qui veulent organiser les Jeux Olympiques, ce qui va poser un problème aussi pour le mouvement olympique.
Et vous, personnellement, quels souvenirs vous conservez de cette édition ?
J'en conserve plusieurs. Évidemment, la Dream Team américaine, parce que le tournoi de basket, même s'il a peu d'intérêt sportif, puisqu'ils ont gagné tous leurs matchs par plus de 40 points d'écart. Mais c'est la présence de ces stars qui changent la face du sport. Et puis, évidemment, parce que moi, je suis français, c'est Marie-Jo Pérec qui gagne sa première médaille d'or à Barcelone.
Une afro-descendante guadeloupéenne. Merci d'être venu dans l'Afrique en jeu.
Merci à vous.
L'Afrique en jeu, c'est terminé. Merci à la Sonothèque pour les archives et à Cécile Bonissier à la réalisation. Pour se quitter, je soumets à votre sagacité l'aphorisme du regretté Pape Diouf. Il disait « Je suis envieux de ce qu'ils ont, mais c'est pour être à leur niveau, pas pour les déposséder de leur savoir. C'est la différence que je fais entre l'envie et la jalousie. » Nous nous retrouverons au même et à même endroit la semaine prochaine. Vous pouvez nous retrouver également en balado-diffusion dans les podcasts de votre application Pure Radio de RFI. Et d'ici là, le plus important, prenez soin de vous.